Bonsoir, comment allez-vous ? Connaissez-vous l'histoire de ce petit garçon qui est triste ? Car dans son village, on lui reproche sa façon d'être. Alors son père lui dit « Dimanche prochain, tu m'accompagneras au marché ». Les voilà donc partis pour le marché, tous les deux le dimanche suivant avec leur âne. Le père assied son fils sur l'âne et marche à côté. Sur leur passage, les gens commentent « Quelle honte ! Un homme d'âge mûr qui marche, alors que ce gamin avec ses bonnes jambes se prélasse assis ?» Le dimanche suivant, c'est le père qui monte sur l'âne et le garçon qui marche. « Quelle honte !» disent à nouveau les gens. « Cet enfant avec ses petites jambes qui s'épuisent pendant que cet homme, dans la force de l'âge, se prélasse assis. » Le dimanche suivant, ils marchent tous les deux à côté de l'âne. « Ah, oh, voilà bien deux imbéciles qui ont un âne et n'en profitent pas !» Le dimanche suivant, ils montent tous les deux sur l'âne. « Assassin, criminel, vous voulez tuer cette bête !»« Voilà, mon fils, quoi que tu fasses, tu seras critiqué. Alors fais donc comme tu veux et n'écoute surtout pas les commentaires. Ce n'est pas toi qui es bizarre, ce sont ceux qui critiquent, ne trouves-tu pas ?»
Bonjour, je m'appelle Pierre et je voudrais savoir s'il existe un animal qui a toujours le mauvais rôle dans les contes.
Bernadette Bricout.
Alors, j'espère, Pierre, qu'il n'y a pas d'animal qui ait toujours un mauvais rôle dans les contes. Mais il y a des animaux qui sont pressentis plus que d'autres pour ce rôle. Il y a des animaux qui, généralement, se trouvent du côté du héros. Par exemple, les oiseaux qui commentent l'action du conte. Souvent, ils vont donner des avertissements au héros avec un chant. Ils sont sur l'arbre et ils vont avertir le héros du danger. Ou bien les poissons, le roi des poissons, par exemple, qui va venir en aide au héros dans un conte célèbre parce que l'un de ses fils, qui avait été rejeté par la vague sur la plage, a été remis à l'eau par le héros. Pour les animaux qui ont souvent un mauvais rôle dans les contes,
c'est-à-dire
un rôle d'agresseur.
Au crapaud.
Vous pensez au crapaud. Moi, je pensais d'abord au loup, qui a depuis des temps très anciens une mauvaise réputation. On a vu en lui un animal satanique, un animal pervers, un animal dont le grand Buffon, qui est pourtant un grand naturaliste, disait qu'il était nuisible de son vivant et inutile après sa mort.
Ah bah dis donc.
Et donc, quand on regarde par exemple, Pierre, peut-être que tu auras la curiosité d'aller y voir plus tard, les dictionnaires historiques, eh bien, on s'aperçoit que dans les dictionnaires historiques même, au XVIIe siècle par exemple, on pense que la cervelle du loup croît et décroît avec le cours de la lune. Donc c'est un animal mythique et c'est un animal auquel on prête des pouvoirs surnaturels. Le pouvoir, bien sûr, de dévorer, le pouvoir d'attaquer, le pouvoir d'hypnotiser. Noël, si vous rencontrez un loup dans un chemin creux et s'il vous voit le premier, alors vous serez privé de voix. Vous ne pourrez plus raconter à d'autres ce que vous avez vécu. Et évidemment, dans les affaires de harcèlement, c'est quelque chose que l'on retrouve quand on fait du loup un loup séducteur.
Ah oui, privé de voix, tu ne peux plus dénoncer ton loup.
Tu ne pourras pas raconter ce que tu as vécu. En revanche, je dirais, et ça me réconforte beaucoup, qu'il y a tout de même, heureusement, des traditions orales pour nous dire que le loup a sa raison d'être, n'en déplaise à Buffon, qu'il a des qualités. Et je n'en voudrais qu'un exemple avec un proverbe sibérien qui dit « Choisis le loup pour frère, il connaît l'honneur des forêts et l'amour de la vie ». Donc, ce loup a aussi ses lettres de noblesse. Bien sûr, si on change de tradition orale, on trouvera d'autres animaux. Par exemple, très souvent, dans les contes africains, la hyène, parce que la hyène se nourrit de charogne et qu'en général, sa présence dans un conte signale la mort et ce qui va s'en suivre. Donc, elle est vécue comme un animal maléfique et comme un animal qui peut même accompagner des mauvais présages.
Merci à Bernadette Bricout, professeure de littérature orale. Vous connaissez le principe des petits bateaux. Des enfants posent des questions et nous trouvons des spécialistes pour leur répondre. Ce soir, le mathématicien Michael Launay répondra à la question « Quand on compte, est-ce qu'on peut compter jusqu'au bout ?» L'anthropologue Evelyne Heyer répondra à la question « Est-ce que les hommes préhistoriques avaient tous la peau noire ?» Et le souffleur de verre à la flamme, où c'est une spécialité, Wilfried Alain répondra à la question « Eh bien, comment souffle-t-on le verre ?» Ces questions ont été posées au 01 56 40 43 57.
Bonjour, je m'appelle Zélie, j'ai 6 ans. Je voudrais savoir comment les deux coucous savent déjà qu'il faut qu'ils poussent l'œuf du nid. Au revoir, merci.
Comment les bébés coucous savent qu'il faut qu'ils poussent l'œuf qui est déjà là hors du nid? C'est génial cette question, Guilhem Le Saffre.
Oui, alors Zélie, je trouve que tu sais déjà beaucoup de choses. Tu sais que les coucous sont capables, les bébés coucous, sont capables d'éjecter les œufs du nid dans lequel leur œuf a été pondu.
Mais ça se passe vraiment comme ça?
Et ça se passe vraiment comme ça. Alors, bon, certains pourraient dire, mais qu'est-ce qu'il est méchant ce bébé coucou de se débarrasser comme ça des œufs qui sont autour de lui, mais lui, il y est absolument pour rien. Simplement, il a la peau du dos extrêmement sensible. Et c'est un réflexe, dès que quelque chose touche son dos, il a besoin de s'en débarrasser. Que ce soit un œuf ou un oisillon, il va éjecter tout ce qui lui touche le dos. C'est tout simplement parce qu'il a cette hypersensibilité du dos. Et je vais te dire quelque chose d'autre, Zélie, pour bien te faire comprendre, c'est ce qu'on appelle un stimulus tactile. Ça veut dire que ça dépend de ce que l'on touche. Les goélands ont sur le bec une tache rouge. Lorsque leur poussin tape avec leur bec cette tache rouge, automatiquement, le goéland adulte va recracher la nourriture qu'il destine à ses petits. Et si tu supprimes la tache rouge, le petit goéland ne va pas taper le bec de l'adulte et l'adulte ne régurgitera pas la nourriture. Là aussi, c'est un stimulus tactile. Eh bien, c'est la même chose pour le petit coucou. Il suffit qu'un œuf ou tout autre objet touche son dos pour qu'il ait envie de se débarrasser de cet objet.
C'est époustouflant ce que vous êtes en train de raconter. C'est incroyable!
Mais c'est pour ça que je m'intéresse aux oiseaux.
C'est-à-dire que sur la tache rouge, il tape et le bec s'ouvre et la nourriture arrive.
Voilà, c'est presque automatique. Et ça, ce sont des éthologues, c'est-à-dire des gens qui étudient le comportement, qui ont mis ça en évidence, hein, Nico Tinbergen, par exemple, dans le courant du XXe siècle. Et ils ont mis ça en lumière. C'était passionnant de découvrir ça.
Qui se perd dans ton regard à la traîne. Fidèle, fidèle, c'est fêlé ma tête. Sans que je le décèle, mais tu m'as rappelé les règles. Nos affaires à faire dans la rigole. Pas sans faire si l'eau rigole en ruisselant sur notre idylle. Je vois que tes yeux me disent reviens me chercher, prouve-moi, approuve-nous, viens me chercher. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Et la neige recouvre mes pas. Je t'appelle, mais tu ne réponds plus. Et la neige recouvre mes pas. Je t'appelle, mais tu ne réponds plus. Tempête, tempête, j'empeste les restes d'une vieille fête. Maudite soit-elle cette girouette qui est dans ma tête. Tempête, tempête, j'empeste les restes d'une vieille fête. Maudite soit-elle cette girouette qui est dans ma tête. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Et la neige recouvre mes pas. Je t'appelle, mais tu ne réponds plus. Et la neige recouvre mes pas. Je t'appelle, mais tu ne réponds plus. J'essaye de te rassurer, mais j'assure pas. Puissent les astres nous susurrer leurs astuces fiables. Pour durer ad vitam sans doute, même dans le désert. Quand déserte le désir qui nous faisait jadis danser. La rage maintenant inonde tête menaçant, j'aurais dû voir avant les grandes eaux couler sur tes joues maussades. Je suis trempé à mon tour, plus aucun rempart. Tout explose, cette marée à queue s'empare de mes entrailles. Ai-je tout gâché, tout caché, tout lâché? Ai-je tout froissé, tout fâché, tout fané? Ai-je tout gâché, tout caché, tout lâché? Ai-je tout froissé, tout fâché, tout fané? Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire.
C'était donc Aloïse Sauvage, présentement.
Les petits bateaux sur France Inter.
Bonjour, je m'appelle
Nicolo, j'ai 9 ans et je voudrais savoir comment on souffle le verre. Merci.
Bonsoir Nicolo. Alors Nicolo, nous avons invité pour toi un souffleur de verre. Wilfried Alain, vous êtes souffleur de verre de père en fils. Vous êtes souffleur de verre à la flamme. Comment on souffle le verre, demande Nicolo.
Bonjour Nicolo. Alors le verre, il y en a plusieurs sortes le verre, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a une multitude. Le principe reste toujours le même, c'est à base de sable, plus précisément de la silice. Et le verre, une fois qu'il est fabriqué, une fois qu'on a passé l'étape de vitrification, on en parlera un jour, en température de ramollissement, il est en température de fusion, il est très très chaud. Et à cet état-là, il est liquide, presque liquide. On va le baisser ensuite un petit peu en température. Et en fait, il est malléable un petit peu comme du miel, comme de la guimauve, ça coule tout seul, ça coule lentement sous son poids naturel. En fonction de la température, on peut avoir plus ou moins de dureté dans cette matière malléable. Ça peut être un peu moins liquide, un peu plus liquide, ça dépend de la température qu'on va régler. Donc en fonction de nos températures de réglage, on va pouvoir travailler le verre. Donc là, je vais te parler d'une technique qui est la souffleur de verre traditionnel à la canne, celui d'artistique. Donc le souffleur de verre va aller cueillir le verre, on dit cueillir mais pas cueillir, et à ce moment-là, le verre, on va pouvoir utiliser tout un tas de techniques. On va utiliser la force centrifuge, parce qu'on va le tourner sur lui-même, on va souffler, donc c'est notre air des poumons qui sort à 37 degrés va arriver à une température extrêmement élevée, il va se dilater, il va nous aider à pousser les parois du verre, donc on va pouvoir le gonfler, on va pouvoir utiliser la pesanteur en le laissant couler. On peut avoir un effet de coulage.
Ah, ça les tire, ouais.
On peut travailler avec des moules, on peut travailler avec des outils. Donc on va pouvoir imprimer des formes avec des étoiles et des cannelures à l'extérieur. On va pouvoir faire du plein en soufflant, mais on peut avoir du creux en soufflant. Mais on peut avoir aussi du plein pour faire des anses, etc. Donc c'est la combinaison de toutes ces techniques issues simplement de la physique. Et tout ça, c'est de la physique. Il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de techniques qui vont nous permettre de transformer le verre, la pâte de verre, en objet décoratif ou utilitaire.
Nicolo dit comment on souffle le verre. Vous avez dit on souffle avec ses poumons. Il existe des machines qui soufflent ?
Alors, quand on achète par exemple des verres à pied standard dans l'industrie, c'est pas un souffleur de verre qu'il y a derrière. Ce sont des machines automatiques ou des ampoules à l'époque où on avait les ampoules en verre. Tout ça, ce sont des machines industrielles qui vont travailler. Vous avez plus un souffleur de verre derrière ça. Le souffleur de verre n'agit que sur les objets maintenant décoratifs, plutôt haut de gamme.
Wilfried Alain, quand vous soufflez le verre au poumon, oui. Vous nous avez expliqué que ce verre, il était plus ou moins liquide ou plus ou moins pâteux. Est-ce que c'est difficile d'arriver à le décoller, à envoyer de l'air dedans? Est-ce que vraiment il faut y aller à fond ou...
Ça dépend de l'épaisseur de verre que vous avez là sur votre canne à ce moment-là, à l'instant T. En général, on commence à souffler peu d'épaisseur, on va le souffler et ensuite on va l'écueillir, on va l'enrober d'un peu plus de matière pour le faire grandir, etc. La difficulté de soufflage, on est vraiment aidé par la nature. 1 litre d'air à 37 degrés, il est multiplié par 2 largement quand il arrive à la température au bout de la canne. Puis on peut respirer et renvoyer encore de l'air. On peut recharger, alors on ferme la bouche, on respire par le nez et on renvoie une deuxième impulsion.
Si vous passez par la Vendée, vous pouvez aller chez l'artisan Wilfried Alain. Il fait entre autres des sabliers qui sont très beaux. Si vous ne passez pas par la Vendée, eh bien vous pouvez aller sur son site que vous trouverez sur celui des petits bateaux. Pour info, Alain, ça s'écrit A2LYN.
Bonjour, je m'appelle Loan, j'ai 9 ans et je voudrais savoir si les hommes préhistoriques africains avaient la peau noire. Merci.
Evelyne Heyer, vous êtes professeure en anthropologie génétique au Muséum. Alors, vous avez entendu Loan. Est-ce que les hommes préhistoriques africains avaient la peau noire, à votre avis?
Alors déjà, Loan est bien au courant parce qu'on vient tous d'Afrique. Et ça, c'est important à bien rappeler. Et effectivement, en Afrique, on a une adaptation au climat. C'est-à-dire que comme on est dans un endroit où il y a beaucoup de soleil, et ben pour avoir une protection du soleil, on a un petit pigment dans la peau qui s'appelle la mélanine, qui fait effectivement la peau plus foncée. Donc on sait que les populations qui venaient d'Afrique, donc l'homme préhistorique en Afrique, étaient de couleur de peau noire.
Vous voulez dire, quand vous dites on vient tous d'Afrique, Evelyne Heyer, que finalement, à un moment donné, l'humanité n'était composée
que de gens qui avaient la peau noire, que de personnes qui avaient la peau noire.
Tout à fait. Au début, notre espèce actuelle qu'on appelle l'Homo sapiens était de couleur de peau noire. Et quand il sort d'Afrique, petit à petit, il va s'adapter à des endroits où il y a moins de soleil. Et là, on va voir au fil des générations un éclaircissement de la couleur de la peau.
Evelyne Heyer, il s'est passé combien de temps entre une humanité qui était 100% peau noire et des êtres qui ont commencé à avoir la peau blanche? D'abord, est-ce qu'ils ont eu la peau blanche ou est-ce que ça a éclairci comme ça? Est-ce qu'ils ont eu la peau comme les Brésiliens, un petit peu marron, et puis marron clair, et puis blanc?
Alors en fait, ça se fait sur un très grand nombre de générations. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. C'est que petit à petit, on voit des transformations au fil des générations. Donc ça prend beaucoup de temps, ça prend des milliers d'années. Mais on pense maintenant que le début de la couleur de peau plus claire, comme on la trouve en Europe ou en Asie, ça daterait d'environ 15 voire 20 000 ans. Donc ça fait à peu près, je dirais, 1000 générations. Donc voilà, ça donne un ordre de grandeur. Ça prend du temps.
Ça prend du temps, mais n'empêche que tous nos ancêtres étaient noirs.
Ah, on était tous noirs avant et on vient tous d'Afrique. Donc on est tous africains et noirs, il y a plusieurs milliers de générations.
À propos de noirs, c'est l'histoire d'une petite fille noire qui, quand elle a 10 ans, donne son premier concert de piano dans l'église de la petite ville de Caroline du Nord où elle est née. Ses parents sont au premier rang, on est en 1943, mais on les fait déménager vers le fond pour laisser leur place à des blancs. Et ce jour-là, cette petite fille a refusé de jouer tant qu'on ne rendrait pas leur place à ses parents. Par la suite, elle a milité pour les droits civiques des Africains-Américains. Vous avez peut-être deviné, il s'agissait de Nina Simone.
Myself after the last romance, but I wouldn't give it a second chance. They say if you seek, you're sure to find, and I know how true that is, 'cause the closer I get to you, baby, yeah, you're driving me clean out of my mind. I say, save me, somebody save me. Just about a baby to see me. Hang on, somebody see me.
Jusqu'à combien savez-vous compter ? Ma voisine sait compter, c'est une très vieille dame. Alors, elle compte en francs, mais en anciens francs. C'est-à-dire que, pour une baguette, elle compte 1000 francs. Une baguette coûte 1,50€, qui font 10 francs, qui font 1000 anciens francs.
Bonjour, je m'appelle Mathis, j'ai 6 ans et j'aimerais bien savoir quand on compte, est-ce qu'on peut compter jusqu'au bout ? Merci de me répondre, au revoir.
Bonsoir Mathis et merci pour ta question. Alors nous soumettons ta question, Mathis, à un jeune mathématicien, Michael Launay, normalien, et auteur de ce grand roman des maths édité chez Flammarion, que tu liras, je l'espère, quand tu seras plus grand. Est-ce qu'on peut compter jusqu'au bout ? Demande Mathis.
Alors c'est compliqué de compter jusqu'au bout parce que déjà il peut y avoir un problème de temps parce que si on veut compter ne serait-ce que jusqu'à 1 milliard, c'est un nombre qu'on connaît, 1 milliard, en donnant un nombre par seconde, eh bien il faudrait déjà plus de 30 ans pour compter jusqu'à 1 milliard. Et évidemment quand on est à 1 milliard, on est très loin d'être au bout parce que des nombres, il y en a une infinité, c'est-à-dire qu'on peut aller aussi loin qu'on veut.
Plus de 30 ans sans dormir.
Plus de 30 ans sans dormir, effectivement. Un par seconde, en faisant rien d'autre.
Sans s'arrêter.
Donc autant dire qu'en toute une vie, si on prend le temps de dormir, eh bien on n'y arrivera jamais. Ceci dit, voilà, les nombres ne s'arrêtent jamais, donc a priori on ne peut pas compter jusqu'au bout. Ceci dit, on peut quand même se poser une question, c'est jusqu'où on peut compter avec des nombres qui ont un nom. Parce que quand on est sur des très 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 grands nombres, au bout d'un moment, il n'y a plus de nom pour les nombres. C'est-à-dire qu'on ne peut plus les nommer, il n'y a plus de nom pour ces nombres qui sont trop grands. Alors, si on commence par exemple au milliard, quand on a 1000 milliards, c'est ce qu'on appelle un billion. Et puis après, quand on a 1000 billions, c'est ce qu'on appelle un billiard. Puis après, quand on a 1000 billiards, on a ce qu'on appelle un trillion. Puis après, à chaque fois, quand on passe au mot suivant, on multiplie toujours par 1000. Donc quand on est au trillion, on passe au trilliard, puis au quadrillion, puis au quadrilliard, puis au quintillion, puis au quintilliard. Là, on a des nombres vraiment de plus en plus grands. Alors a priori, ça peut durer longtemps comme ça, c'est-à-dire qu'on peut inventer des mots à l'infini. Ceci dit, si on regarde dans les définitions officielles, il y a notamment un décret qui date du 3 mai 1961, qui définit pour la France certaines conventions scientifiques, notamment au niveau des poids et mesures, c'est-à-dire la définition d'un mètre, la définition de la seconde, des choses comme ça. Et en annexe de ce décret, eh bien, on trouve justement une note sur la façon dont on nomme les nombres. Et dans cette note, eh bien, les noms sont précisés jusqu'au sextillion. Alors, au-delà du sextillion, on pourrait évidemment imaginer qu'il y a des septillions, des octillions, des nonillions. Mais si on se tient à tout ce qui est marqué dans des documents officiels, ça s'arrête au sextillion. Donc sextillion et puis sextilliard qui vaut 1000 sextillions. Ce qui veut dire, donc un sextillion, c'est un 1 suivi de 36 zéros. Et ce qui veut dire que donc si on veut compter jusqu'au bout, bien entendu, on n'aura pas assez de temps dans une vie pour compter jusque-là, mais le plus grand nombre qui soit officiellement prononçable dans la langue française, je vais essayer de le dire, mais ça va prendre un petit peu de temps, ça fait 999 sextilliards, 999 sextillions, 999 quintilliards, 999 quintillions, 999 quadrilliards, 999 quadrillions, 999 trilliards, 999 trillions, 999 billiards, 999 billions, 999 milliards, 999 millions, 999 999. Au-delà, on pourrait imaginer que le nombre suivant s'appelle un septillion, mais il n'a pas d'existence vraiment légale jusqu'à présent.
Pas déclaré.
Voilà, il n'est pas déclaré.
Vous trouverez le site de Michael Launay sur le site des Petits Bateaux et vous pouvez réécouter cette réponse étonnante ou bien l'émission des Petits Bateaux en entier sur franceinter.fr. Défi aux petits bateaux. Pauline Laverture, Marjorie de Voucou, Eliane Gérard, Noël Bréham et notre garçon programmateur Jean-Baptiste Audibert. Nous vous retrouverons la semaine prochaine à partir de 19h30 et nous vous laissons avec Denis Chessou pour La Tulle, mon petit loup.